tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h.
Nom de Dieu.
Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
Précédemment, dans la recherche de la Spoutnik Terre.
Qui êtes-vous ?
Je suis conservateur au Muséum d'Histoire Géobiologique Martienne. J'aimerais que vous me rameniez un artefact d'exception.
Nous sommes vos hommes, conservateur.
Bonne chance, et prenez garde à Mars.
Capsule non identique, vous êtes en violation du blocus martien. Préparez-vous à être abordé, et pas dans Tourlou, ou on vous détruira sans réfléchir.
On va tenter une manœuvre d'esquive !
Je vais au poste d'armement.
Mais on n'a pas d'armes !
On n'a pas d'armes !
On a plus de bateau ! Il a peur en plus ! On va s'écraser, prépare-toi!
Ah
oh, non, la voix de
Wookie! Et maintenant, la suite.
Ah, ça va? T'avais pas plus violent comme atterrissage?
Ah, heureusement qu'on a eu le temps d'enfiler nos combis. Je crois que l'intégrité structurelle de la coque en a pris un coup.
Belle façon de dire qu'il y a un trou de la taille de mon poing dans la paroi.
Et on n'a plus de vue en plus.
Le côté d'accueil est parti?
Avant le crash, les scruteurs indiquaient qu'ils s'éloignaient. J'imagine qu'ils nous ont laissés pour morts.
Bon, on fait quoi du coup?
Bah, on a toujours ton artefact à aller récupérer, non? J'ai essayé de nous cracher pas trop loin de la localisation que le collectionneur nous avait donnée.
Mais on fait comment? Sans courant pour ouvrir la porte? Et sans capsule pour se tirer de ce trou?
Oh, mais cette capsule a plus d'un tour dans son sac, monsieur!
La dernière fois que tu as sorti ton sac, on a mordu la poussière, je te rappelle. Et au sens propre.
Ah, toujours si pessimiste. Les droïdes sont sur batterie. Ils vont réparer la capsule, et pendant ce temps-là, nous, on va aller récupérer l'artefact.
Bon, j'ouvre la porte. Elle est coincée.
Tiens, prends ça. Ça devrait faire l'affaire. Pendant ce temps-là, moi, je pose le contexte.
Bienvenue Spoutnik Terrien, à bord de votre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. On l'a vu dans la première partie de notre balade martienne, la planète rouge est singulière dans l'histoire de l'étude du système solaire. Mais si par le passé ce sont les fantasmes et autres rêveries qui donnaient à nos prédécesseurs l'irrésistible envie d'aller y poser un orteil ou plusieurs, ce sont aujourd'hui des raisons bien plus terre-à-terre qui poussent les agences spatiales de la planète entière à s'y bousculer. Le but de cet embouteillage interplanétaire est fondamental, tant il est lié à la mère de toutes les interrogations à partir du moment où on lève les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Si à cette question on est tenté d'accoler des images de civilisations avancées et autres rayons de la mort, sur Mars, elle prend un tour moins sensationnel, mais non moins essentiel. Car la vie a-t-elle un jour pu émerger, peu importe sa forme et sa complexité, à la surface de la planète rouge? Pour répondre à cette question, il faut creuser, métaphoriquement et un peu réellement, dans l'histoire de notre voisine planétaire. Creuser dans son histoire et dans son passé, dans ses roches, dans son atmosphère, creuser et remonter le fil du temps pour comprendre comment Mars est devenue la planète rouge. Alors, Spoutnikteriennes, Spoutnikteriens, préparez-vous à remonter le cours d'un temps que les moins de 100 000 ans n'auraient pu ne jamais connaître. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire géologique de Mars. On l'a vu dans le précédent divagabondage que je vous invite d'ailleurs à aller écouter sur le site de Radio U si vous l'avez manqué, Mars est une petite planète comparée à la Terre et à Vénus. Environ un dixième de leur masse pour un tiers de leur taille. Cela est en partie dû aux pérégrinations orbitales de Jupiter et Saturne dans le voisinage de la zone où s'est formé Mars. C'est donc ici que l'on va commencer notre histoire 4,6 milliards d'années dans le passé. Le Soleil est alors une toute jeune étoile, Et comme les autres planètes du système solaire, Mars se forme par accrétion de poussière et de gaz situés sur son orbite. En clair, cela veut dire que collision après collision, les poussières se sont assemblées pour former des amas de poussière toujours plus gros. Plus les amas sont gros, plus leur gravité augmente et plus ils attirent à eux d'autres poussières et même d'autres amas plus petits. Les collisions entre amas, parfois entre-temps devenues des protoplanètes, sont violentes, comme on a pu le voir dans notre épisode sur la formation de la Lune. Ces collisions, titanesques, créent beaucoup de chaleur due à la friction entre les matériaux au moment du choc. Cette chaleur ne disparaît pas immédiatement, mais est conservée par la planète en formation. La température est alors si élevée que la plupart des matériaux sont sous forme liquide, et la planète est donc recouverte d'un océan de magma. Cet état, dans lequel se trouvent les matériaux constituant la planète, va permettre ce que l'on appelle la différenciation. Un peu comme quand on mélange de l'huile et de l'eau, les matériaux les plus lourds vont couler, quand les matériaux les plus légers vont remonter. Si à la surface, on a le sentiment d'être attiré vers le bas, on est en fait attiré vers le centre de la planète. Ainsi, les matériaux lourds vont migrer vers le centre de la planète, où ils formeront le noyau, souvent métallique, et les matériaux les plus légers, les gaz, vont remonter à la surface et former une atmosphère primitive. À ce moment-là, on se retrouve avec une sorte de bébé planète. Sur Terre, ce processus a duré 50 millions d'années, alors que sur Mars, il n'en a duré que 30 millions d'années. Et ça, c'est plutôt rapide. Mais la question c'est, pourquoi ? Eh bien, c'est principalement dû à la composition de la planète. Mars possède plus d'éléments légers que la Terre. Cela explique que sa masse ne soit que d'un dixième de celle de la Terre pour un rayon qui est d'un tiers de cette dernière. Ces éléments légers, et notamment le soufre, ont permis à Mars de se différencier plus rapidement que la Terre. Plus fluide, ils ont donc migré plus rapidement à leur emplacement définitif. Cette fluidité, combinée avec la petite taille de Mars, a également eu un impact sur la vitesse à laquelle la croûte a pu se solidifier. Une planète, c'est en effet un peu comme un gâteau qui sort du four. Prenez deux cakes. Un premier fait dans un petit moule, et un second fait dans un plus gros moule. Le petit cake va refroidir plus rapidement que le gros, car il a emmagasiné moins de chaleur à l'intérieur de lui. Eh bien, Mars, c'est un peu le petit cake ici, car grâce à sa petite taille, la planète a pu posséder bien avant la Terre une surface solide, lui permettant de poursuivre un développement tout à fait intéressant.
C'est bon, super, sortons. T'as une idée d'où est-ce qu'il faut aller ?
Ouais, j'ai transféré la localisation de l'artefact sur le transpondeur portatif. Regarde, il est juste là.
Ah, ça fait une trosse. Nos conteneurs d'eau sont pleins au moins ?
Ouais. On peut y aller.
Regarde-moi ce paysage. De la poussière, du vent et toujours plus de poussière. Pas une goutte d'eau, pas une trace de glace. C'est quand même dommage. Avec autant de cratères, ça aurait fait de très jolis lacs. T'as déjà été en Auvergne ?
Justement, tiens, j'y viens.
D'Auvergne ?
Mais non, allô ! Et crois-moi, elle manquait pas ici. Le truc, c'est juste qu'on est arrivé un poil trop tard.
L'histoire géologique de Mars est divisée en trois grandes aires. Le Noachien, l'Hespérien et l'Amazonien. L'Hespérien commence il y a environ 4,4 milliards d'années, lorsque la croûte de Mars se solidifie. La planète possède alors une atmosphère probablement composée de CO2, de diazote, de dioxyde de soufre et de vapeur d'eau. La pression atmosphérique, des centaines de fois supérieure à celle que l'on peut observer aujourd'hui, est alors suffisante pour que la vapeur d'eau se condense sous forme de pluie. De l'eau liquide est alors présente à la surface de Mars. Et ça, ça peut paraître un détail pour vous, mais en biologie, ça veut dire beaucoup, car l'eau, c'est la vie. Enfin, un ingrédient indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Mais, avant de chercher d'éventuelles traces de vie à la surface de Mars, comment peut-on savoir que de l'eau a coulé à la surface de la planète rouge il y a plus de 4,4 milliards d'années, et surtout, en quelle quantité ? Avec ce confortable cardigan atmosphérique, Mars était donc capable d'accueillir de l'eau liquide à sa surface. Mais pour savoir où et en quelle quantité cette eau était présente, il faut se pencher sur les observations depuis l'orbite et les relevés de surface, car si aujourd'hui l'eau a disparu, elle a, à bien des égards, laissé de nombreuses traces de son passage. Comme sur Terre, l'eau martienne a trouvé son chemin partout où elle en a eu besoin. Elle a donc érodé les sols, formant des lits de rivières, des canyons et charriant des alluvions. La sonde Mars Express a par exemple mis à jour Nirgal Vallis, un ancien delta fluvial s'étendant sur près de 700 km où l'eau aurait coulé il y a plus de 4 milliards d'années, et se terminant sur une vallée d'une profondeur de 200 mètres. Ailleurs, ce sont d'anciens lacs de cratères qui ont été découverts, comme le cratère Gale ou le rover Curiosity déambule depuis 2014. Au niveau de l'équateur de la planète, Valles Marineris, le plus grand canyon de Mars et à ce jour de tout le système solaire, présente des traces d'érosion probablement dues à l'eau. Les roches et leur composition peuvent également être de précieux alliés dans cette chasse à l'eau. Ainsi, les rovers comme Opportunity et Spirit ont pu caractériser des roches qui ne peuvent s'être formées qu'avec le concours d'eau liquide. Ce sont ainsi des roches riches en carbonate, en silice, en phyllosilicate ou même des argiles qui ont été découvertes. Pour cette dernière cependant, le consensus n'est pas total, car les argiles auraient pu être formées par d'autres processus selon une étude française de 2019. Au rayon eau liquide de votre planète, l'emblématique article est sans aucun doute l'océan. Sur Terre, il recouvre plus de 70% de la surface et lui donne son surnom. Si aujourd'hui personne n'aurait la saugrenue idée de surnommer Mars la planète bleue, un océan aurait bien pu être présent sur une bonne partie de l'hémisphère nord de la planète rouge. Ainsi, des structures géologiques pouvant s'apparenter à des lignes côtières ont pu être identifiées. Ces lignes sont cependant encore soumises à débat puisqu'elles ne sont pas nettes et ont subi des modifications au cours du temps. En effet, au milieu des lacs, rivières, deltas et autres océans, Mars aurait pu subir de catastrophiques tsunamis, bouleversant quelque peu ses paysages. C'est ce qu'ont affirmé des auteurs d'une étude publiée en 2016. Selon eux, Mars aurait été frappé par un astéroïde il y a 3,4 milliards d'années, dans un grand océan de l'hémisphère nord. Cet impact cosmique aurait ainsi créé une vague de plus de 120 mètres de haut, aidée par la faible gravité, et inondant une zone de plus de 570 000 km², soit une superficie à peu près égale à celle de la France métropolitaine. Ça, les chercheurs l'affirment en se basant sur des observations depuis l'orbite, où les restes des couloirs créés par les vagues ainsi que les contours arrondis des régions parsemées de blocs de roches ont pu être observés. L'hypothèse du tsunami n'est cependant pas gravée dans le marbre, car elle ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique. Parmi les reproches qui peuvent être faits à l'étude de 2016 et à celles qui ont suivi, le premier et le plus important est sans aucun doute la présence d'eau liquide à ce moment-là de l'histoire de Mars, car, on va le voir maintenant, il y a 3,4 milliards d'années, la présence d'une grande quantité d'eau liquide n'est plus aussi évidente que plus tôt dans l'histoire de la planète rouge.
Ça.
Oh nom de Dieu, ils nous ont retrouvés!
Mais je pensais qu'ils croyaient morts!
Faut croire qu'ils ont changé d'avis!
Je vais arrêter de pied, besoin de ça parce que ça nous risque pas vraiment!
Je sais pas si ce serait ça les dinosaures ou les tirs de mortier laser!
Aucune idée, mais le résultat est le même!
Coupe le vide! Faut qu'on trouve un endroit où se planquer!
Là-bas, un cratère!
Où ça? Parce qu'il y en a plein qui apparaissent autour de nous là, je t'ai pas encore vu!
À gauche, bah gros! J'ai les vieux en plus! Ils iront jamais nous chercher là-bas! On pourrait échapper au bombardement.
Oh, en parlant de bombardement.
Quoi?
Ça me donne une transition parfaite pour passer à l'ère suivante.
Tu penses vraiment que c'est le bon moment là?
Mais oui! Mais continue de courir au cas où.
La fin du premier âge, le Noachien, coïncide avec un cataclysme commun à toutes les planètes internes du système solaire. Le grand bombardement tardif. Sous ce nom très tape à l'œil se cache en réalité le cataclysme à l'origine, par exemple, de la plupart des cratères visibles à la surface de la Lune, et aussi les plus grands cratères visibles à la surface de Mars. Ces impacts, nombreux et parfois très violents, ont conduit à des changements drastiques dans l'environnement martien. Déjà dans son atmosphère, car ces astéroïdes en auraient soufflé une part non négligeable. D'autre part, l'énergie cinétique liée à ces collisions à répétition aurait transmis au manteau martien de l'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur additionnelle aurait perturbé le bon fonctionnement du champ magnétique martien. Sur Terre, le champ magnétique est issu des mouvements de convection dans le noyau de la planète. Le mouvement de ces matériaux métalliques qui le composent conduisent à l'apparition de ce qu'on appelle un effet dynamo. C'est cet effet dynamo qui conduit le noyau terrestre à réagir comme un gros aimant et qui attire l'aiguille de votre boussole vers le nord. Si l'orientation est l'application la plus connue du champ magnétique terrestre, ce dernier est aussi fondamental au maintien de la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, au milieu d'autres effets que nous avons déjà abordés dans d'autres épisodes, le champ magnétique réduit considérablement l'impact des vents solaires sur l'atmosphère. Et ça, c'est une très bonne chose, car sinon, ces vents solaires éroderaient doucement mais sûrement l'atmosphère jusqu'à la faire disparaître. Pour en revenir à Mars, la montée en température du manteau planétaire a réduit le gradient de température entre ce dernier et le noyau, arrêtant progressivement le champ magnétique de toute la planète. A partir de là, ça a été un peu le début de la fin de l'atmosphère de la planète rouge, et par là même, de l'eau à sa surface. A noter que le grand bombardement tardif a probablement boosté l'activité volcanique, donnant naissance aux plus grands volcans de la planète. Parmi eux, Alba Mons, un volcan large de 1600 km, ou encore Olympus Mons, le plus haut sommet de tout le système solaire, haut de près de 22 km. Ces deux volcans font partie du renflement de Tarsis, une zone plutôt torturée où se concentrent un grand nombre de volcans martiens. La région a probablement un jour été au-dessus d'un point chaud, c'est-à-dire un endroit où l'épaisseur de la croûte est particulièrement faible, permettant aux roches du manteau de remonter à la surface et de créer des volcans. Sur Terre, le même phénomène est à l'origine de certains archipels volcaniques comme Hawaï. Cependant, le mouvement des plaques tectoniques sur Terre conduit le manteau à se déplacer par rapport à un point fixe sur la surface. Ainsi, c'est souvent un chapelet d'archipels ou d'îles volcaniques qui apparaît à l'aplomb d'un point chaud. Sur Mars, l'inexistence des plaques tectoniques a permis aux points chauds de rester au même endroit pendant très longtemps et donc aux volcans de profiter d'un apport de matériaux sur une plus longue durée que sur Terre. Cela a donc conduit à l'émergence de structures titanesques à l'image d'Olympus Mons et son point culminant à 22 km d'altitude. Bien que n'ayant pas eu d'activité tectonique à l'échelle planétaire, le renflement de Tarsis peut, dans certaines régions, être vu comme un embryon de plaques lithosphériques, notamment dans sa région du sud, qui semble avoir glissé encore plus au sud, en créant au nord un rift et surtout un fossé d'effondrement énorme, Valles Marineris, le plus grand canyon de Mars, comme on l'a déjà vu précédemment. Le volcanisme excessif de Mars aurait enfin libéré dans l'atmosphère une grande quantité de dioxyde de soufre, chargeant progressivement l'eau martienne en acide sulfurique. Pour résumer, on a donc des impacts d'astéroïdes répétés, des volcans géants, une eau qui se charge en acide sulfurique et une atmosphère qui commence à se faire la malle suite à l'arrêt du champ magnétique global. Bref, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas vraiment dans un scénario de rêve. C'est alors en pleine apocalypse que Mars passe tranquillement à la troisième et dernière ère, l'Amazonien, il y a environ 3,2 milliards d'années. C'est l'ère dans laquelle Mars est actuellement, et c'est aussi la plus longue. Cette ère est caractérisée par une activité volcanique qui décroît, et surtout par la disparition progressive de la majeure partie de l'atmosphère martienne. En effet, sur 3,5 milliards d'années, c'est 100 kilopascals de pression partielle de CO2 qui ont disparu. Aujourd'hui, la pression atmosphérique sur Mars est de 600 pascals, soit 170 fois moins que celle sur Terre. Les conséquences de cette réduction de la pression atmosphérique sont multiples. D'abord, sur la température. La perte progressive des gaz à effet de serre a conduit la température moyenne sur Mars à chuter au cours du temps. En parallèle, la diminution de l'atmosphère a eu pour conséquence la baisse de la pression atmosphérique. Or, la pression atmosphérique est particulièrement liée à la présence ou non de liquide à la surface. Ainsi, si la pression est trop basse, la glace se transforme instantanément en vapeur et vice-versa sans passer par la case liquide. La conséquence de cela est donc la disparition progressive de l'olichine martienne au cours de l'Amazonien. On estime ainsi qu'au début de l'Amazonien, il y a 3,5 milliards d'années, l'olichine était toujours présente à la surface de Mars, mais que son existence n'était plus que sporadique il y a 1 milliard d'années pour finalement être complètement absente aujourd'hui. Ce sont donc les mers, les lacs et les rivières de Mars qui, sur toute la durée de l'Amazonien, se sont asséchés jusqu'à complètement disparaître, rendant la planète de plus en plus sèche, de plus en plus aride et lui donnant progressivement le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. À un détail près, la planète n'a pas encore obtenu sa si caractéristique couleur rouille. Cette teinte est en effet due à l'oxydation progressive des oxydes de fer anhydre à la surface de la planète à mesure que l'eau disparaissait et que l'atmosphère se transformait. À partir de là, Mars devient donc définitivement la planète rouge.
Ça fait des heures qu'on marche. C'est encore loin ? Non, justement, on y est. Tiens, attrape ça et creuse. Oui, chef. Il est là. Opportunity. Opi. 185 kg de science sur roue. 45,16 km parcourus en 14 ans.
Au lieu de 600 mètres sur 90 jours prévus au départ,
belle perf.
Belle perf. Bon, mettons-le sur le chariot et rentrons à la capsule.
Ok. Un peu plus. Allez. Yeah. Il est lourd, surtout avec tout ce sable qui s'est accosté partout. Mais comment est-ce qu'il a pu se retrouver sous autant de poussière?
Alors ça... C'est tout le problème de Mars.
Mars est-elle aujourd'hui devenue une planète morte, un immense désert recouvert d'une fine poussière où rien ne se passe? C'est la question qu'on est en droit de se poser lorsqu'on remet en perspective l'activité passée de la planète et ce que l'on peut observer d'aujourd'hui. À première vue, il n'y a en effet plus de rivières, de lacs, de mers, les volcans sont éteints et l'atmosphère continue de fuir dans l'espace. Mais tout cela est-il aussi statique qu'il n'y paraît? Peut-être pas en fait, et le rouge martien a peut-être encore dans sa manche quelques nuances. D'abord, ses volcans, car certains volcans martiens pourraient avoir toujours une activité volcanique sporadique. Ainsi, en 2021, une éruption datant d'il y a seulement 50 000 ans a pu être identifiée dans la région d'Elysium Planita. Et 50 000 ans à l'échelle géologique, c'est vraiment un battement de cils. De quoi, peut-être, espérer un apport de chaleur inattendu dans certaines régions. Ses calottes polaires aussi. Mars possède deux calottes polaires, une au nord et l'autre au sud de la planète. Chacune possède une dynamique propre, due aux saisons martiennes, et elles sont principalement composées de CO2 sous forme de glace. Une partie des calottes est permanente, et d'autres sont soumises à des variations de température saisonnière. Ainsi, lorsqu'il fait très froid, en hiver, une partie de l'atmosphère gèle. On dit qu'elle se condense sous forme de glace et va donc gonfler la taille des calottes polaires concernées. En été, lorsque la température remonte, les glaces se transforment en gaz et retournent donc dans l'atmosphère. Attention cependant, il n'y a pas de pluie de CO2 liquide sur Mars, car les conditions de pression et de température pour permettre ces pluies ne sont pas réunies à la surface de la planète rouge. En revanche, ce sont des geysers, crachant du CO2 et des poussières noires que vous serez en mesure d'observer si vous vous baladez aux abords des calottes polaires après la fin de l'hiver. Les calottes polaires de Mars contiennent également de la glace d'eau. L'eau est aussi présente sous forme de glace à d'autres endroits de la planète. Plus au sud, la glace d'eau pourrait aussi être présente à quelques dizaines de centimètres ou mètres sur la surface. En 2018, des images de l'orbiteur MRO permettent de découvrir de la glace d'eau à quelques dizaines de centimètres sous la surface, une aubaine pour les futures missions habitées. Mais avant d'hydrater de futurs astronautes, l'eau martienne a peut-être été propice au développement d'une vie microbienne. Et qui sait, peut-être l'est-elle encore. C'est en substance à cette question que toutes les missions scientifiques martiennes tentent de répondre. Là, l'eau sous forme liquide est fondamentale, mais son existence, on l'a vu précédemment, est particulièrement complexe, mais pas pour autant impossible. En 2018, en s'appuyant sur le radar de la sonde européenne Mars Express, des chercheurs proposent l'existence d'un lac souterrain de plus de 20 km de long, d'au moins quelques dizaines de centimètres d'épaisseur, le tout à 1,5 km de profondeur, proche de la calotte polaire australe de Mars. S'il y a lieu d'être enthousiaste, il faut aussi rester prudent, car pour que l'eau reste à l'état liquide dans cette région de Mars, il faudrait qu'elle comporte une concentration importante de sel, la rapprochant plus d'une saumure que de l'eau de mer. Alors la vie, si elle est apparue, a-t-elle pu survivre dans un environnement si extrême ? Eh bien, impossible à dire, mais l'eau liquide n'est pas le seul point qui alimente le moulin de l'énigme de la vie, car le méthane entre aussi dans la partie. Ce gaz est considéré comme un marqueur chimique probable de la vie. Il faut comprendre que sur Terre, 80% du méthane est produit par le vivant. Alors, en détecter sur Mars donnerait un certain crédit à l'hypothèse d'une vie martienne. Le problème, c'est que la détection de méthane sur Mars semble être un débat sans fin. Détecté puis finalement plus détecté par Mariner 7 dès 1967, il est détecté à nouveau par Mars Express en 2004 en quantité infime dans l'atmosphère. Mais là encore, le débat fait rage et les résultats sont contestés. Pour tenter de clore le débat, la mission européenne TGO, presque entièrement consacrée à la recherche du diméthane, est lancée en 2016. En parallèle, Curiosity, le rover de la NASA à la surface de Mars, détecte lui aussi du méthane, avec parfois des pics d'émissions relativement intenses. Problème, en orbite, la sonde européenne ne détecte rien, quand bien même ses instruments seraient capables de détecter des émissions 10 fois plus faibles que celles détectées par Curiosity à la surface. Bref, pour le moment, le mystère du méthane martien reste entier, et avec lui, celui de la vie. L'arrivée de nouvelles sondes et rovers pourrait changer la donne en multipliant les points de détection et donc la précision des mesures. L'ouverture de l'ère des retours d'échantillons martiens, annoncée pour la fin de la décennie via une collaboration entre les agences spatiales européennes et états-uniennes, pourrait là encore changer la donne. Ce nouveau front, dans la recherche de la vie passée ou présente martienne, permettrait en effet des analyses plus poussées sur Terre que celles opérées dans les laboratoires embarqués à bord des sondes. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on aura tout l'occasion de détailler dans un prochain voyage.
C'est bon, on est de retour.
Waouh, ils sont super efficaces ces droïdes.
Tu vois, je te l'avais dit.
J'ouvre la porte du hangar.
Oh, il pèse son poids ce rover. Aide-moi.
Il n'était pas censé rouler?
Vu tout ce qu'il a parcouru et la poussière sur laquelle on l'a trouvé, franchement, j'en doute.
Allez, un dernier petit effort.
C'est bon. Oh, allez, Je monte aux commandes. Pendant ce temps-là, tu démarres le réacteur, ok?
Ça va.
Il est en ligne.
Alors, décollage.
Après tant de péripéties, ça me rend presque triste de partir. Mais d'ailleurs, ça va devenir quoi tout ça dans le futur?
L'atmosphère de Mars va continuer à s'éroder, et la planète va continuer à se refroidir, c'est inéluctable. Son activité ne va pas non plus aller en s'arrangeant. Mais si Olympus Mons ne risque plus de vomir des tonnes de lave sur ses hautes pentes douces, tout n'est pas pour autant perdu pour celui ou celle qui attendrait bien sagement du mouvement à la surface. Car année après année, c'est l'activité des humains à la surface de notre voisin endormi qui donne à Mars un supplément de vie. Aujourd'hui, c'est une vie de type mécanique qui creuse et cherche pour en découvrir une organique. Des machines, toujours plus nombreuses et provenant de nouveaux horizons, en témoignent l'atterrissage de Tianwen 1, premier rover chinois à faire quelques tours de roue sur ce sol rouillé à l'histoire définitivement bien chargée. Plus tard, peut-être dans pas si longtemps, verrons-nous pour la première fois une poignée de personnes déambuler avec une assurance limitée, mais un courage démesuré, à la surface d'une autre planète que celle où ils sont nés. Et si vous êtes assez patient, alors dans 70 millions d'années, c'est la destruction programmée de Phobos qui devrait vous émerveiller, donnant à la planète rouge un anneau, comme seule la grande Saturne en a le secret. Réveille-toi, on est sur Phobos.
Déjà ?
Ouais, sans attaque de pirates, c'est fou comme le trajet paraît plus tranquille d'un coup.
Allez, on descend, je crois que notre client est déjà là.
Ah, vous voilà ! Méro, victorieux. Je savais que cette mission ne serait qu'un amuse-gueule pour vous.
Oui, enfin, on a quand même frôlé deux fois la mort dans cette affaire, hein. Les pirates qui stationnaient en orbite autour de Mars, ça vous dit quelque chose?
Oh, du menu fretin, tout au plus, voyons. Bref, passons. Vous avez l'artefact?
Dans la cale. Vous pouvez demander à vos gorilles d'aller le sortir.
Oh, il est mort. Magnifique, nos collections vont s'en trouver très enrichies. Tout comme vous d'ailleurs. Tenez messieurs, vos crédits, avec un petit supplément pour les désagréments rencontrés.
C'est pas de refus.
Bien, je vais aller installer cette merveille dans nos collections. Si à l'avenir vous manquez d'activité, vous savez où me trouver.
Juste...
Non, ça va aller. Notre agenda est rempli, jusqu'à septembre. Au moins.
Très bien, je vois. Alors, au revoir.
Je me sens plus léger maintenant qu'il est parti. Je te dépose quelque part ?
Non, c'est pas la peine. Je pense que je vais rester quelque temps sur Phobos. Il a l'air d'avoir pas mal de blé à se faire ici.
Ça marche. Fais quand même gaffe à toi, hein.
T'inquiète pas. Les trucs dangereux, ça n'arrive qu'avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire ?
Je suis pas trop sûr, mais il y a 2-3 trucs que j'aimerais vérifier.
Ok, ça marche. Je te laisse. Je vais tenter de rattraper ce collectionneur avant qu'il ne parte trop loin. Hé ! Consommateur !
Le voilà.
Allez, à l'aventure.
C'était à la recherche de la Spoutnik Terre, capsule 11, sans retour, le 12e épisode de la capsule spatiale de Radio U, avec la participation de Romain Vergest dans le rôle du contrebandier. Merci à lui. Si vous souhaitez vivre ou revivre les pérégrinations de la capsule spatiale de Radio U, rendez-vous sur le site internet radio-u.org dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutnik Terre, toutes nos émissions, avec en bonus quelques précisions. En attendant de nous retrouver pour de prochaines aventures, gardez la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutnik Terre.